France Culture.
Bonjour.
France Culture.
Voilà, c'est super.
Ça va, c'est pas trop long?
Le book club.
Non, les extraits. Ah non, vous avez hyper bien travaillé, c'est hyper précis et tout.
Je pouvais pas trimballer ma bibliothèque.
On a des petites images. Voilà, on est chez vous.
C'est très bien organisé, je m'y crois.
Pas mal, non? Comme quoi, un bout de papier sur un pied de micro.
Dans la bibliothèque de Blex Bolex.
Déjà beaucoup plus à l'aise.
Ça marche, non?
L'émission est parfaite.
On y va, c'est bon pour vous?
Allons-y.
Marie Richeux.
Pendant longtemps, vous avez publié, Blex Bolex, des livres qui ne parlaient presque que par l'image. Les vacances, Maître Chat, l'imagier des gens. Récompensé pour le si fin travail de chromie, de conception et d'écriture graphique. Votre travail s'est comme ouvert au récit récemment avec Les Magiciens et l'apparition toute fraîche de votre livre Le Temps du Capitaine Brett. Vous racontez qu'enfant, vous entreteniez un rapport très fort aux livres, mais d'abord et avant toute chose comme objet, au-delà même de ce qu'ils étaient capables de contenir. L'objet livre vous captait et vous vous concentriez sur ce que les images, je vous cite, avaient à vous offrir. En fait, j'aime les images, dites-vous tout simplement dans un entretien consacré à votre parcours et édité en 2022. Aussi, nous avons été surpris en découvrant la sélection de textes que vous proposez de lire aujourd'hui pour parler de votre bibliothèque parce qu'il n'y figure aucun livre d'images. Ce sont des textes plutôt anciens, dont certains sont très théoriques, mais, et c'est là peut-être où tout fait sens, ils auraient en commun de s'intéresser à des limites du langage, au poète qui n'écrit pas, au peintre qui n'a pas peint, à la sensation d'absurde ou d'aporie. J'ai un faible pour les livres, dites-vous dans ce même entretien de 2022, mais pas pour le vocabulaire. Alors, déplions tout cela ensemble. Un très grand merci, Blex Bolex, d'ouvrir votre bibliothèque pour le Book Club.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bienvenue chez vous, j'ai fait une petite installation.
Oui, je me sens tout à fait chez moi, effectivement.
Vous décrivez ou je décris pour nos auditeurs?
Allez-y.
Je décris?
Je pensais amusant.
Vous nous avez très gentiment envoyé deux photos de votre bibliothèque. Donc une photo où on la voit, on va dire, en entier, et puis une photo de détail. Voilà, je les ai tout simplement imprimées et pliées hyper rapido sur des pieds de micro que j'ai sculptés. Mais ça fait un décor.
Oui, ça fait une petite installation théâtrale.
Voilà, on est comme dans un petit théâtre de papier.
Tout à fait, je me sens tout à fait chez moi.
Est-ce que vous voulez bien décrire votre bibliothèque peut-être en partant de cette image-là? Qui est l'image un peu générale?
Alors, l'image donc, qui se trouve sur le pied de micro près de vous, c'est un mur qui se trouve dans une petite grange, qui se trouve elle-même à côté de ma maison. C'est un mur, c'est une pièce qui n'est pas très grande, qui doit faire environ 15 mètres carrés. Et le mur, par contre, est très haut. Donc, de la base de la bibliothèque au sommet, il doit y avoir à peu près 4 mètres. Et comme c'est dans mon atelier, ce sont essentiellement les livres d'images. Toutes mes références graphiques, ça peut aller de peintres, créateurs d'affiches, bandes dessinées, etc. C'est essentiellement visuel.
Il y a une grande échelle qui est au milieu de l'image, au milieu du mur. Donc, dire quand même que ce fameux mur qui est très haut est recouvert de livres. Il y a une grande échelle qui permet, j'imagine, d'aller là-haut. Et il y a deux fenêtres. Ce jour-là, il devait faire beau, ce qui dégage pas mal de lumière. Et en le regardant, là, on dirait presque un bonhomme, avec oui. Deux yeux comme ça, et le nez au milieu avec l'échelle qui... Voilà,
c'est vrai.
Un bonhomme sympa.
C'est un bonhomme sympa. Ma table de travail est un petit peu en dehors du cadre, on en voit une partie. Effectivement, il me regarde travailler, il n'a pas l'air malveillant.
Ça a l'air même plutôt assez agréable comme endroit pour travailler. Puis vous nous avez envoyé une deuxième photo, donc ce serait un détail d'un des compartiments.
Non,
c'est un autre endroit.
C'est un meuble qui ressemble à une vieille armoire, où je stocke en fait essentiellement les livres japonais. Et chinois et tchèque aussi. Donc là aussi, c'est une partie de la bibliothèque visuelle. Et après, ce que je ne vous ai pas envoyé, c'est tout ce qui est justement ce dont nous allons parler, c'est-à-dire les livres qui contiennent essentiellement du texte, qui se trouvent à l'étage de la maison, mais dans des meubles relativement bas, ce qui fait que c'était pas très pratique à photographier.
Donc les choses sont assez géographisées.
Oui.
Oui, vous savez où sont les choses et l'endroit où vous travaillez, il y a donc toute cette ressource de livres.
J'ai même, pour le besoin de cette émission, retrié tous mes livres de poche.
C'est vrai.
Pour savoir où les trouver. Donc maintenant, il y a une section russe, une section polonaise, une section allemande, etc.
Et c'est bien agréable, non, de trier ses livres de poche?
C'est très agréable. Ouais. Du coup, on retrouve des choses. Il y a des choses aussi qui ont disparu parce que j'ai déménagé récemment en avril cette année. Donc maintenant, j'ai un programme de rachat de livres.
Vous racontiez donc dans cet entretien de 2022 qui est paru dans The Comics Journal que vous aviez, dans l'enfance, un rapport intense avec les livres, mais plutôt avec les livres comme objet. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Blex Bolex?
Il y a quelque chose de rassurant, mais c'est de l'ordre du fétiche. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un tout petit dictionnaire, donc ce qu'on appelait pouce à l'époque, c'était vraiment des livres minuscules.
Ouais, oui, je vois, oui.
Qui était un dictionnaire de latin, donc pas très passionnant, mais j'adorais cet objet. Donc pour moi, c'était à la fois de l'ordre du jouet et d'une chose que j'aimais compulser, même si le contenu m'intéressait pas plus que ça. Et je sais que je pouvais agacer mon grand-père, par exemple, pour un livre de petit format que j'avais trouvé dans la visite d'une abbaye. Et je lui avais vraiment cassé les pieds. Et il m'a dit, je te l'achète si tu le lis. Je ne l'ai jamais lu. C'était l'histoire des moines de cette abbaye. Et avec, c'était vraiment un livre très historique, en fait, très.
Il était vraiment tout petit.
Il était tout petit, il était superbe.
C'est marrant. Donc ça veut dire que ce qui vous plaisait, c'était presque de tenir un livre au creux de votre main.
Oui. Je sais pas pourquoi. Et une des premières choses que j'ai commises en dehors d'essayer de faire de la bande dessinée, c'était un minuscule dictionnaire qui était à peu près dans ce format-là.
Directement hérité de cette passion d'enfant, du coup.
Ouais, complètement. Et donc là, par contre, on a fait ça avec un copain de classe, on échangeait nos infos, on faisait nos définitions. Il y avait des illustrations, des cartes, des pliantes, des choses comme ça. Donc on est tout à fait dans ce fantasme du...
Et petit dictionnaire.
Très petit, ouais. C'était,
vous l'avez encore?
Je l'ai encore, oui. Il n'en existe que deux au monde et ce sont des objets uniques.
Vous aviez quel âge?
Là, je devais avoir 12-13 ans.
Et vous aviez comment vous aviez choisi les mots qui figuraient dans ces deux minuscules dictionnaires?
Il y avait des mots qu'on se répartissait et il y avait des mots qui étaient en commun parce que c'était trop important. Mais après, la façon de les illustrer, la façon de les c'était pas répertorié par ordre alphabétique, mais vraiment par mots soulignés, définitions, d'où ça venait, à quoi ça appartenait, etc., etc. Mais c'était très, très idiot, hein.
Mais c'est marrant pour quelqu'un qui affirme quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, que vous n'avez pas vraiment beaucoup de goût pour le vocabulaire.
Oui, c'est...
c'est un peu antinomique.
Oui, bon, c'est un goût
mais pourquoi
que j'ai perdu.
Pas que vous avez perdu, vous croyez?
Non, j'en sais rien. Je me souviens plus de vous avoir affirmé ça.
Ouais. Ouais. Peut-être c'est faux.
Peut-être c'est faux. Ouais. Tout simplement. M'arrive de mentir.
On voulait vous faire entendre la voix d'un libraire, peut-être pour évoquer un lieu en particulier, Blex Bolex, mais pour évoquer aussi les lieux que sont les librairies et le rôle que peuvent jouer les libraires comme passeuses et comme passeurs. C'est Jacques Noël.
Jamais été un libraire, comme on dit, sérieux. Je suis vraiment marchand de plaisir. Toi, tu peux servir de passeur parce que tu connais ce métier, tu sais obtenir les livres, mais tu n'es pas leur maître à penser. C'est eux qui restent fidèles à leurs envies. Un homme qui va venir pendant des années me côtoyer, m'acheter des livres, les emmener chez lui. Et un jour, je ne sais pas s'il le fait exprès, m'amener son épouse qui va s'apercevoir que chez lui devient comme ici. Et là, c'est l'arrêt final d'une fabuleuse, rencontre qui peut s'arrêter parce que elle est capable de dire stop. Tu ne fais pas de chez moi ce regard moderne double.
La voix de Jacques Noël dans un reportage tourné pour Canal+, en 2007, qui parle de sa librairie, la librairie Un Regard Moderne, rue Gilles Coeur à Paris 6e. On avait envie de vous faire parler de ce libraire, de cette librairie, parce que C'est assez rare finalement dans nos portraits de bibliothèque qu'on mentionne aussi précisément des lieux qui ont compté dans le parcours des personnes que nous recevons. Pourquoi est-ce que c'est un lieu, j'allais dire un phare dans votre parcours Blex-Bolex, cet endroit?
C'est un phare pour beaucoup de gens de ma génération. On a, pour beaucoup d'entre nous, avons commencé avec le regard moderne. C'est-à-dire qu'il était passionné par toutes sortes de livres, lui aussi, tout genre, avec le minimum de censure, voire pas du tout de censure. Ça s'est un peu compliqué par la suite. Et il encourageait notre production, il nous l'achetait. C'est-à-dire que c'était pas du dépôt.
Des fanzines.
Des fanzines, de la BD. Non, en fait, il aimait les artistes autoproducteurs. Et donc, il encourageait cette création sauvage, et sous toutes ses formes, dans toutes sortes de techniques. Et c'était incroyable. C'était un lieu où on pouvait se croiser avec d'autres artistes, se jalouser, se disputer aussi, par l'intermédiaire des livres que Jacques nous prenait. Et donc, réaliser que brusquement, un artiste qu'on jugeait, par exemple, un peu moyen, brusquement accomplir un pas incroyable, il nous encourageait aussi, pas seulement financièrement en achetant nos livres, mais aussi par des discussions qu'il entretenait en nous montrant d'autres choses, en nous faisant découvrir d'autres livres qui n'étaient pas que des fanzines, mais aussi qui pouvaient être l'histoire de l'art, qui pouvaient être... en fait, il nous ouvrait le cœur de sa librairie, vraiment comme un coffre au trésor, quoi.
Mais donc l'importance qu'il avait dans votre parcours et dans vos parcours, puisque vous parlez d'une génération d'artistes, c'était à la fois de faire vivre votre travail, mais aussi de le nourrir, quoi, de vous proposer des textes, de la lecture, de regarder des choses.
Tout à fait.
Vous vous souvenez par exemple d'un livre qu'il aurait mis entre vos mains ou d'un fanzine qu'il aurait mis entre vos mains qui aurait été...
Tellement.
Il y en a plein, mais peut-être quelque chose où vraiment ça aurait ouvert des portes.
Comme j'étais déjà avant de connaître la librairie, très amateur de l'underground américain, lui, il m'a mis de l'underground français et fait découvrir aussi des livres qui venaient du Japon. Et donc, c'est aussi une manière de découvrir cette chose-là qu'on faisait. Et il y avait une sorte d'international, finalement.
On parle de quelles années?
Là, c'est les années 90. Mmh. 90, en fait, il venait d'ouvrir la librairie en 1992, qui est la date où je sors mon tout premier ouvrage. Et c'était très, très impressionnant. Il y avait, il pouvait être dur, hein. Je sais que j'étais très intimidé. J'avais mis une minuscule tasse de café sur un des exemplaires. J'ai essayé de plaisanter, et lui, très sèchement, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? C'était terrifiant.
Mais d'où venait cette autorité? Parce que qu'est-ce qui faisait que d'un seul coup, il y avait une figure d'autorité pour vous, au sens où vous prêtiez attention à ce qu'il disait de votre travail et aux livres qu'il pouvait vous conseiller?
Ben, déjà, dans le premier contact, c'est effectivement, j'ai essayé de lui vendre ma production. Donc, il devait la valider d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, c'était tout ce qu'il représentait pour les autres artistes aussi. C'était vraiment une vitrine, quoi, qu'il nous offrait. Et en plus, à l'époque, il y avait une petite galerie attenante qui a servi plus tard de dépôt de livres parce que la librairie s'est chargée à ne plus pouvoir en contenir de plus. Et c'était aussi une promesse d'exposition aussi dans cette minuscule galerie, qui était pour moi le sommet du sommet de la création. Et ça l'était, dans certains cas, c'était des artistes qui sont devenus très célèbres, ou qui l'étaient à l'époque aussi, qui exposaient là, dans cette minuscule galerie. On était tous fiers, on était comme des fous.
Vous aviez vous-même grandi dans un endroit ou dans des endroits où il y avait des livres?
Mes parents étaient professeurs tous les deux, donc ils avaient... Il y avait des bibliothèques conséquentes, les uns...
Dans lesquelles vous
vous
promeniez?
Oui, ça m'arrivait, il n'y avait pas réellement de censure, donc je pouvais ouvrir les livres qui me plaisaient. Bon, il n'y avait pas de choses non plus particulièrement bizarres. Mais, par exemple, j'ai découvert les expressionnistes allemands dans la bibliothèque de mon père. Ça m'a vraiment étonné, la gravure sur bois, le noir et blanc, comme ça, très... les dessins de Georges Gross, les choses comme ça. Donc, j'avais déjà, la possibilité de voyager déjà à travers les livres que m'offraient mes parents par cette disponibilité-là, quoi. Mmh.
C'est marrant parce que à la fois pour la librairie Un regard moderne et pour les bibliothèques de vos parents, vous mentionnez l'idée que il n'y avait pas de censure, qu'on pouvait éventuellement y trouver des choses bizarres. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous intéressait, Blex Bolex, de découvrir dans des bibliothèques ou dans des librairies, je vous cite, des choses bizarres.
Mais les choses bizarres viennent avec les choses qui ne le sont pas. C'est-à-dire que la première expérience de lecture est indirecte, parce que c'est mon père qui nous lisait les albums de Tintin. Mmh. Il faisait les dialogues, il faisait tout ça. Il devait nous expliquer un peu les images parfois. Donc c'était une lecture très active, qui devait être un peu fatigante pour lui. Mais nous, on était comme des fous. Donc cette chose-là entraîne une curiosité qui va se nourrir d'autres choses. Sur le moment, les expressionnistes allemands dont je parlais ne me paraissent pas bizarres. Mmh. C'est une curiosité qui s'entretient d'elle-même. On veut voir d'autres choses, on veut connaître d'autres images. Georges Gross, c'était un peu plus... pas bizarre, mais c'est beaucoup plus violent, quoi.
C'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors, c'est un... on va dire un caricaturiste allemand de la mouvance Dada, de l'après-première guerre mondiale, et qui a fait des caricatures très, très dures sur, justement, les soldats mutilés... l'ambiance qui régnait à Berlin dans cet entre-deux-guerres qui commençait à devenir très bizarre du coup. C'est un artiste qui a été pourchassé par le régime nazi, entre autres. En tout cas, les gens de Dada étaient très menacés et qui a dû s'enfuir aux États-Unis avant que ça tourne mal pour lui, quoi.
Et aujourd'hui, quand vous allez en bibliothèque ou en librairie, Blex Bolex, vous cherchez encore des trucs bizarres ?
Je cherche une émotion, en tout cas une émotion plastique, graphique. Mmh. Je cherche aussi toujours une émotion d'objet. Mmh. Je m'intéresse à la façon dont les livres sont reliés, de la qualité du papier.
D'impression
aussi, bien sûr. En fait, je continue à chercher une sorte de surprise qui vient du médium. Avant... ou en même temps, en tout cas de façon parallèle avec ce que propose le contenu, ou l'artiste, ou l'auteur. Ou... C'est quelque chose qui est resté très, très vivant en moi, en tout cas.
On va parler des choix, des 5 textes, 6 même, que vous nous proposez de lire pour entrer plus avant dans votre bibliothèque, juste après ça.
Culture. le Book Club. Dans la bibliothèque de Blex Bolex. Marie Richeux.
On entre dans le deuxième temps de cette émission, Blex Bolex. On demande à nos invités de choisir 5 extraits de textes pour donner une image instantanée de leur bibliothèque. Avant que l'émission commence, vous avez dit « Bon, c'est ça, mais ça aurait pu être autre chose. » Évidemment, c'est toujours une photographie qui a une part d'arbitraire. Néanmoins, est-ce que vous voulez bien nous dire un peu comment vous avez procédé ? Comment vous êtes arrivé à ce choix-là ? Avant qu'on se lance.
Ce sont des impulsions, en fait. Je me suis dit, tiens, ce texte-là, quand je l'ai lu, il m'a vraiment étonné, pour telle ou telle raison, j'essaierai d'expliquer plus tard. Et disons que c'est une première émotion, un souvenir d'émotion, en fait. Quand j'ai découvert ces textes pour la première fois, ça m'a retourné la tête, d'une certaine manière. Et chacun à sa façon.
Chacun à sa façon. Ok, ce serait leur point commun, ce serait « ça m'a retourné la tête ». Pas mal. Intense. Et je le disais aussi en introduction, donc on connaît votre travail par la puissance des images que vous produisez depuis des années, Blex Bolex, là, en effet, ça s'accompagne de plus en plus de mots, on pourrait dire, depuis Les Magiciens. Qu'est-ce qui explique que dans ces choix-là, il n'y ait pas de livre d'images ?
Ouf.
Comment ça se fait que dans les 5 bouquins que vous nous proposez d'évoquer aujourd'hui, il n'y a aucun livre d'images ?
Déjà parce que je pense que j'aurais eu du mal à les décrire à la radio. Mm-hmm. Parce que j'aurais été obligé de parler de papier d'impression, de relire toutes les choses que j'évoquais tout à l'heure. Et ensuite, parce que la lecture reste mon activité préférée.
La lecture de texte, quoi.
La lecture de texte, oui, tout à fait. Et c'est supérieur au cinéma ou à écouter de la musique. C'est vraiment un univers dans lequel j'aime me retrouver pour vraiment des raisons. Pareil, je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure.
Vous êtes vraiment au très bon endroit pour faire ça. On se lance donc dans les 5 ou 6 textes qui vous ont retourné la tête. On commence par un texte de Bruno Schulz. Il s'appelle « Les boutiques de Canel ». Il apparaît en 1934 dans la collection « L'Imaginaire » chez Gallimard, traduit du polonais par Thérèse Douchy, Georges Sidre et Georges Lesowski, du polonais, parce que cet auteur, on le dira tout à l'heure, mais 1892-1942, est un juif polonais, mort en 1942. L'enchevêtrement touffu des herbes folles et des chardons brûle en crépitant dans le feu de l'après-midi. La sieste paresseuse du jardin bourdonne du vacarme des mouches. Les chaumes dorés hurlent au soleil comme une nuée de sauterelles rousses. Les grillons s'égosillent dans la pluie ruisselante du feu. Les siliques, pleines de graines, explosent directement avec un bruit de cigale. Vers la haie, la croûte épaisse des herbes se bosselle comme si le jardin s'était retourné dans son sommeil et que ses pectoraux robustes respiraient le silence de la terre. Là, le mois d'août, dans son incontinence de femelles débraillées, avait creusé d'énormes entonnoirs de bardane, planté d'immenses feuilles chevelues, tirées de hideuses langues de viande verte. Là, ses mères gigognes exorbitées se ballonnaient, largement accroupis, à demi dévorés par leurs jupons en furie. Là, le jardin soldait à vil prix le tout venant de ses marchandises, le sureau, les grands plantains qui sentent le savon, l'alcool sauvage de la menthe, bref, toute la pacotille du mois d'août. Mais de l'autre côté de la haie, derrière cette ombilique de l'été, où l'exubérante bêtise des herbes folles s'en donnait à cœur joie, il y avait un gros tas d'ordures où ne poussaient que des chardons. Personne ne savait que là, le mois d'août avait résolu cet été de fêter sa grande orgie. Sur ce tas d'ordures, appuyé contre la haie et enfoui dans le feuillage épais du sureau, se dressait le lit d'une jeune idiote. Touya, c'est ainsi qu'on l'appelait. Sur un monceau de déchets et de détritus, de pantoufles, de vieilles casseroles trouées et de gravats se dressait son lit métallique peint en vert, deux briques lui tenant lieu de pied. L'air, au-dessus de ce tas grouillant, irradié de chaleur, trié d'éclairs de temps luisant irrités par le soleil, crissait, comme agité par d'invisibles crécelles, et invitait à la folie. Oui, on n'a pas précisé, Blex Bolex, que vous m'avez demandé de lire. Du coup, j'ai dit oui. Du coup, c'est moi qui lis.
Et je vous en remercie. Alors, je vais m'excuser un petit peu.
Ne le faites pas, hein, il n'y a pas besoin de se justifier.
Bon, comme j'habite en Allemagne, il m'arrive de passer de très longues périodes où je ne parle pas un mot de français. Et je crois que j'aurais été réellement incapable de ce que vous venez de faire.
Eh bien, donc, c'est super, je suis ravie de le faire. Alors, en effet, c'est fou, cette description incroyable, la production de cette image.
Oui, et quand j'ai lu ça, j'ai réalisé sur ce passage-là que c'est une pure description, et je n'avais jamais lu quelque chose d'équivalent. Et en plus, ça a provoqué, je trouve ça extrêmement graphique, extrêmement imagé, sensuel.
Synesthésique, près, parce qu'on entend, on voit, on sent.
C'est réellement phénoménal. Et sinon, c'est un recueil de textes, parce que ce sont des sortes de nouvelles, on va dire, de l'ouvrage Les Boutiques de Cannelle. Ce sont aussi des souvenirs d'enfance.
De Bruno Schulz.
Et donc, quelque part, c'est aussi un livre sur l'enfance. Et de lire quelque chose d'aussi riche sur l'enfance qui n'était pas entièrement psychologique. Enfin, il se passe tellement de choses, c'est tellement... C'est un texte qui est très très fort, qui m'avait vraiment, retourné la tête.
Mais comme un rapport plus presque sensoriel, pas tant mémoriel, mais sensoriel de l'enfance.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et même les descriptions dans ce livre qui touchent à son père, etc., sont de cet ordre-là.
Oui,
tout à fait.
Quand est-ce que vous découvrez les boutiques de Cannelle?
Alors, quand j'étais au Beaux-Arts dans la deuxième période, je savais plus trop quoi lire. J'essayais de trouver des ouvrages qui provoquaient un petit peu ma curiosité. Donc j'avais lu Witold Gombrowicz. Et dans un de ses textes, il avait parlé de Bruno Schulz, qu'il connaissait donc. Et j'ai préféré Bruno Schulz à la fin à Witold Gombrowicz. il est moins provocateur dans son écriture, dans ce qu'il raconte. Mais je sais pas, ça m'a vraiment touché d'une manière émotionnelle, quoi. Quand j'ai découvert ça, j'en revenais littéralement pas.
Ouais. C'est vrai, ça produit une image vraiment. En tout cas, le passage qu'on vient de lire, on s'attend pas à la manière dont il rend compte de ce jardin, de ce tas de détritus, et puis à la fin, un lit peint en vert.
Oui.
Qui invitait à la folie.
C'est ça. Et la manière dont ça se termine, c'est assez abrupt aussi. Mais tout est fou là-dedans, en fait. Toutes ces images, le pourrissement, les odeurs. Et c'est un texte donc de Pologne. On s'attendrait à ce que ça vienne du Mexique, quelque chose comme ça, quoi. Il y a une réelle folie qui se dégage de ça.
Oui, d'ailleurs, vous parlez de quelque chose qui pourrait venir du Mexique, mais j'étais en train de regarder donc, à l'intérieur du dernier livre que vous venez de faire paraître. Si on déroule, je ne vais pas trop le faire parce que je ne voudrais pas l'abîmer, mais la couverture du livre, c'est un drapeau, quoi. Et on pourrait presque, drapeau d'un squelette, ça aussi, ça pourrait presque être mexicain. Et il y a quelque chose dans, je ne sais pas, qui m'a fait penser là, même dans la manière dont grouillent les choses dans le texte de Schulz, pas loin de certaines images produites dans votre dernier livre. Je sais pas, lui par exemple.
Ça, c'est peut-être...
Ça peut faire ça dans votre travail. Vous pouvez lire des textes, notamment des textes riches en images, et vous mettre au travail.
C'est extrêmement rare. Je n'illustre pas de textes parce que je pense que je suis incapable. Mais par contre, effectivement, quand je disais que Bruno Schulz est graphique, c'est effectivement dans ce développement, cette effloraison de vocabulaire, du coup,
ouais.
qui est surprenante.
Et qui génère aussi, qui est fertile, quoi.
Oui. Ça, c'est peut-être dans certains détails de paysage dans Le Magicien, il y aurait peut-être
qui est un précédent livre.
Cet effet de grouillement, mais je cherche pas trop ce genre de... Mais quand je lis ça, moi, ça me... rentre dans la cervelle, c'est comme de la musique, c'est très direct.
Le deuxième choix que vous nous soumettez, c'est un texte de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Donc c'est un texte du 19e. Il s'appelle Le Vase d'or, il apparaît en 1813. Et là, on va l'écouter dans la traduction par André Espio de La Mestre. « L'étudiant Anselmus avait repris confiance. Il tira de sa poche ses dessins et ses exercices de calligraphie, non sans une intime satisfaction, convaincu qu'il était de pouvoir éblouir l'archiviste par l'étalage de son rare talent. Mais l'archiviste avait à peine jeté les yeux sur la première feuille, un élégant spécimen d'écriture anglaise, qu'il eut un étrange sourire et secoua la tête. Il en fut de même à chacune des feuilles suivantes, si bien qu'Anselmus sentit le sang lui monter à la tête. Et quand à la fin le sourire de l'archiviste se fit nettement dédaigneux et railleur, il éclata non sans humeur. Monsieur l'archiviste ne semble guère satisfait de mes modestes talents. Cher monsieur Anselmus, répondit l'autre, vous avez pour l'art de la calligraphie des dispositions réellement admirables. Provisoirement, néanmoins, à ce que je vois, il me faudra compter davantage sur votre application et sur votre bonne volonté que sur votre habileté. Mais cela peut tenir aussi aux mauvais matériaux dont vous vous êtes servi. L'étudiant Anselmus s'étendit longuement sur son habileté, dont tout le monde convenait, sur ses bâtons d'encre de Chine et ses plumes de corbeau qui étaient de tout premier choix. Mais l'archiviste Lindhorst lui tendit alors sa page d'anglaise et lui dit « Jugez-vous-même ». Anselmus fut comme frappé par la foudre, tellement l'écriture en question lui parut abominable. Aucun arrondi dans les traits, aucune exactitude dans les pleins et les déliés, aucune proportion entre les grands et les petits caractères, enfin et surtout, de ridicules pattes de mouche tout juste dignes d'un écolier qui gâtaient les lignes les mieux venues. « Et puis, poursuivit l'archiviste, votre encre de Chine ne tient pas ?» Il plongea le doigt dans un verre rempli d'eau et à peine l'eut-il secoué légèrement sur les lettres que tout disparut sans laisser la moindre trace. Ok, je commence à comprendre un petit peu la manière dont vous avez choisi les textes. Vous avez dit « c'est ce qui m'a retourné le crâne ». En effet, ça retourne le crâne. Alors, parlez-nous un petit peu de ce texte, « Le vase d'or », Blex Pollex. Donc, je rappelle, on est au milieu du 19e.
Oui.
Hoffmann, grande figure du romantisme allemand.
Oui, et c'est... Là, par contre, je ne suis pas très savant, mais il me semble que c'est on est quasiment à la fin du mouvement romantique en Allemagne. Et il se passe toujours dans les textes de Hoffmann une sorte de retournement. C'est comme si on glissait d'un univers à un autre. Alors là, dans cet exemple-là, c'est frappant parce que ce sont des choses qui peuvent me toucher en tant que dessinateur, en tant que auteur de mes textes, on va dire. C'est l'impression d'avoir bien fait. Et après se décomposer littéralement en découvrant ce qu'on a réellement produit et ne plus comprendre en fait. Bon, c'est Freud qui parlait d'inquiétante étrangeté. Et pour moi, elle est réellement là dans cette espèce de basculement, d'incertitude totale, de perte de repères. Et c'est quasiment comme ça dans tout ce conte et dans d'autres contes de Hoffmann. Celui-là a des aspects comiques aussi. Il est très divers, c'est vraiment un très beau texte à lire, c'est très drôle. Mais il y a toujours des moments qui deviennent de pure angoisse, quoi. De choses qui sont...
Bah, là, par exemple, c'est-à-dire que lui, en effet, cet étudiant absolument sûr de son habileté se trouve moqué par l'archiviste, mais surtout, à la fin, tout disparaît.
Tout disparaît, ouais.
L'encre ne tient pas, et il y a vraiment quelque chose qui par magie, rejoint l'invisible. Donc, c'est assez angoissant.
C'est assez angoissant. Et ce texte-là est vraiment super parce qu'il arrive très bien à articuler les passages vraiment comiques, de comédie pure, voire d'une autre sorte de folie quand tout se met à délirer, comme dans une comédie où il y aurait plusieurs personnages qui s'embrouillent les uns les autres, etc. Et ces moments très intimes où le personnage perd tous ses repères, tout ce qui... ce en quoi il croit, disparaît, se dissout. Et c'est... J'aurais du mal à décrire quelle sensation ça me donne, mais effectivement, même si je les relis, c'est un des textes d'Hoffmann que j'ai le plus lu.
Et comment vous êtes arrivé à Hoffmann ?
Parce que j'aimais la littérature fantastique. J'ai commencé par le Frankenstein de Mary Shelley, qui m'avait provoqué de paresse. des angoisses. Ça m'avait pas terrifié, mais presque, pas loin. Il ouais. Y a des passages du monstre, on ne comprend plus ce que c'est en fait. Et là, ça devient très inquiétant. C'est cette chose qui vit, qui se déplace, qui n'a aucune conscience. Et ça devient une sorte de robot vivant. C'est extrêmement étrange. Il y a des 3-4 passages de Mary Shelley qui m'avaient réellement terrifié. Je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est? À quoi il pense? Il pense à rien. C'est très étrange. Elle a réussi quelque chose d'extraordinaire dans... Et quand je suis tombé sur Hoffman, c'était aussi par le biais d'une série télévisée, en fait, qui avait mis le conte d'Hoffman en programme, en téléfilm. Et il y avait le marchand de sable. Et on voyait, je crois, vers la fin, des yeux arrachés. J'avais vu ça, j'étais là. Et j'étais attiré par ces
images-là.
Par ces images-là, ouais. Pas du gore, mais vraiment des choses...
Étrange, quoi.
Très étrange, ouais.
Là.
Ouais.
On va pas être très très loin parce que le troisième texte que vous avez soumis s'appelle Regard, paru en 1912 et il est signé de Franz Kafka. Je vais le lire dans la traduction de l'allemand de Corinna Gepner. Si l'on pouvait être un pot rouge. Si l'on pouvait être un pot rouge, toujours paré, et sur son cheval fougueux, dressé sur les pattes de derrière, sans cesse vibrer sur le sol vibrant, jusqu'à ce qu'on quitte les éperons, car il n'y avait pas d'éperons, jusqu'à ce qu'on jette les rênes, car il n'y avait pas de rênes, et qu'on voit le terrain devant soi comme une lande tondue, déjà sans encolure et sans tête de cheval. Il faudrait presque le relire, Blex Bolex, je ne sais pas. En 1912, donc Betrachtung, c'est le titre de 18 textes qui sont réunis par Franz Kafka et qu'il confie à un éditeur de Leipzig. Et donc, ce que je viens de lire, c'est, j'imagine, l'un de ces 18 textes.
Tout à fait. Alors, j'ai choisi ce texte parce qu'on m'a demandé de l'illustrer. Et
bon courage.
Oui, ouais, exactement. Et je pense de manière générale, mais je ne parle que pour moi, je pense qu'il ne faut pas illustrer Kafka.
Parce que comment vous allez faire alors?
Ben, je me suis débrouillé, j'ai fait quelque chose, on va dire de parallèle, mais dans le sens où j'ai cru reconnaître un mécanisme, qui est l'escamotage ici. Et donc j'ai proposé quelque chose qui n'illustre pas Kafka, mais par contre qui suit un peu cette mécanique d'escamotage. Mais de toute façon, le texte de Kafka, pour ce qu'il dit, c'est la forme la plus aboutie. C'est parfait. Et c'est pareil, ça provoque un sentiment aussi très étrange. J'aurais du mal à définir de quoi ça parle réellement.
Bah oui. Mais vous avez des pistes quand même ou pas?
Non, parce que ça serait des opinions et c'est pas très intéressant.
Ça se dérobe quand même, en tout cas. On peut se dire que si on essaye de parler d'une forme de texture ou d'un mouvement du texte, ça se dérobe. Moi, je trouve aussi que ça se rit un peu de tout, quoi, de nous, du langage.
Je trouve qu'il y a quelque chose, pas de méchant de la part de Kafka, mais quelque chose qui est presque comme une mauvaise nouvelle. C'est vraiment difficile à définir. C'est comme si il parlait d'illusions, il parlait d'enfance aussi, il parlait de rêves qui n'ont aucun fondement. Et il y a une très grande tristesse, une très grande mélancolie, mais qui est inhérente à ce qui va nous arriver. Vraiment, j'ai du mal à définir ces choses-là.
C'est finalement assez précis ce que vous dites, mais l'idée d'une mauvaise nouvelle apportée par Kafka, c'est assez beau, qui tiendrait presque à l'essence du langage, quand même.
Oui.
Ce serait une mauvaise nouvelle.
Je le crois, c'est pas du pessimisme, c'est pas du tout ça, mais c'est comme s'il nous parlait d'une chose qui est déjà là, mais qui va nous arriver.
Ouais.
Et c'est en soi, c'est une mauvaise nouvelle. Mais après, dans quel sens ça peut nous affecter si on y croit encore? Je n'irai pas tellement au-delà, en fait.
Et vous lisez beaucoup Kafka?
Non. Non, non, non. En fait, j'ai relu ce texte pour les besoins de...
De votre travail d'illustration.
Exactement. Et j'ai été surpris parce que je pense que j'ai réellement raté quelque chose en ne lisant pas Kafka.
Mais la vie est longue.
Ah.
On va aller vers votre quatrième choix. Il se porte sur un auteur qui s'appelle Natsume Soseki, un auteur japonais. Et le livre s'appelle Oreiller d'herbe, paru en 1906. Je vais d'abord en lire un extrait dans la traduction du japonais par Elisabeth Suetsugu. Et ensuite, on écoutera la voix d'Emmanuel Lozeran qui nous parle du nom choisi par Soseki. Je gravissais un sentier de montagne en me disant « À user de son intelligence, on ne risque guère d'arrondir les angles. À naviguer sur les eaux de la sensibilité, on s'expose à se laisser emporter. À imposer sa volonté, on finit par se sentir à l'étroit. Bref, il n'est pas commode de vivre sur la terre des hommes. Lorsque le mal de vivre s'accroît, l'envie vous prend de vous installer dans un endroit paisible. » Dès que vous avez compris qu'il est partout difficile de vivre, alors naît la poésie et advient la peinture. Le monde humain n'a été créé ni par les dieux, ni par les démons. Après tout, ce sont des personnes ordinaires, comme vos voisins immédiats. S'il est difficile de vivre dans ce monde humain, que des hommes ordinaires ont créé, il ne devrait pas subsister de pays où s'installer. Il ne reste plus qu'à se rendre dans un pays sans hommes. Or, il doit être plus dur de vivre dans le pays sans hommes que dans le monde humain. Puisqu'il est difficile de vivre dans ce monde que l'on ne peut quitter, il faut le rendre un tant soit peu confortable afin que la vie éphémère y soit vivable, ne fût-ce qu'en ce laps de temps éphémère. C'est alors que se déclare la vocation du poète, c'est alors que se révèle la mission du peintre. Tout artiste est précieux car il apaise le monde humain et enrichit le cœur des hommes. Ceux qui débarrassent de tout ennui ce monde où il est difficile de vivre et projettent sous vos yeux un monde de grâce, c'est la poésie, c'est la peinture. Ou encore, c'est la musique et la sculpture. Pour être exact, il ne s'agit pas de projeter le monde, il suffit d'y poser son regard directement. C'est là que naît la poésie et c'est là que le chant s'élève. Même si l'idée n'est pas couchée par écrit, le son du cristal résonne dans le cœur. Même si la peinture n'est pas étalée sur la toile, l'éclat des couleurs se reflète dans le regard intérieur. Il suffit de contempler le monde où l'on vit et de contenir avec pureté et clarté, dans l'appareil photographique de l'esprit, le monde d'ici-bas, futile et chaotique. C'est pourquoi un poète anonyme qui n'a pas écrit un seul vers, un peintre obscur qui n'a pas peint une seule toile, sont plus heureux qu'un millionnaire, qu'un prince, que toutes les célébrités du monde trivial, car les premiers savent observer la vie, peuvent s'abstraire de toute préoccupation, sont en mesure d'entrer dans le monde de la pureté, de construire l'univers unique et de balayer les contraintes de l'égoïsme.
Soseki est un nom d'artiste. C'est pas un pseudonyme au sens où il l'aurait choisi pour dissimuler d'une manière ou d'une autre son identité. C'est un nom dans une grande tradition chinoise où quand quelqu'un s'engage dans une voie artistique, littéraire, même technique, il se choisit un nom, en fait plusieurs noms, parfois successifs, parfois en même temps, pour caractériser ou symboliser un des sens qu'il donne à son activité. Et Soseki, c'est un nom qui condense en fait une anecdote chinoise ancienne, qui est l'histoire d'un lettré qui décide de fuir le monde et de partir dans la montagne. Il croise un ami et au moment où il part, est très fier, il lui dit « Je me rincerai la bouche avec des pierres et je dormirai la tête dans le courant de l'eau. » Alors son ami lui dit « Mais qu'est-ce que tu dis là? Ça n'a aucun sens. » Et donc en fait, on devine, il avait voulu faire une proclamation de frugalité, c'est-à-dire dire « Je prendrai une pierre comme oreiller et puis je me rincerai la bouche à l'eau de la rivière. » Et donc, celui qui a fait un lapsus, en fait, refuse de dire qu'il s'est trompé. Il dit « Si, ça veut dire que je me laverai les dents avec des cailloux et je me rincerai les oreilles avec de l'eau. » Et donc Soseki, ça signifie mot à mot un gargarisme de pierre. Mais en fait, ça rappelle une anecdote qui illustre ce qu'est la mauvaise foi. Et donc, comme nom d'écrivain, c'est quand même un nom très, très singulier, parce que c'est quand même la preuve de quelqu'un qui a conscience d'une certaine inadéquation entre le langage et la réalité. En tout cas, pour qui les relations entre les mots et le réel, je pense, ne sont pas simples. Et donc, il y a à la fois une part, évidemment, d'humour, puis aussi peut-être une part de dévalorisation de ce qu'est un écrivain.
Brillante, cette explication du nom de Natsume Soseki proposée par Emmanuel Lozeran, parce que vous avez choisi, Blex Bolex, un extrait de Oreiller d'herbe que j'ai lu, un texte de 1906. Il y a quelque chose, là aussi, de saisissant. Enfin, je redis la phrase que vous avez dit pour définir votre sélection des cinq textes. Vous avez dit, ce sont des textes qui m'ont retourné la tête. En effet.
Oui. Et ce qui me plaît aussi, c'est l'ouverture. C'est vraiment la première page du livre.
Et c'est ça qu'on a lu là, c'est la première
page. Oui, c'est vraiment l'ouverture. Et c'est cette façon de développer cette espèce de paysage de réflexion, tout en gravissant sa montagne. En fait, le sujet du roman, c'est un peintre qui part à la recherche de sa peinture. Il veut peindre un tableau. Et ce qu'il est en train de faire ici, il est déjà en train de poser les bases de son tableau, mais nous peint une image japonaise, en fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'imaginer, dans le cadre d'une estampe, ce paysage de montagne avec ce petit personnage qui se laisse envahir par ses pensées. Donc à ce moment-là du livre, et c'est l'ouverture, pour moi elle est vraiment magistrale, c'est vraiment comme une ouverture de symphonie. Ça va définir tout le reste du livre, ça va définir tout le reste du texte, tous les événements qui vont se passer après.
Il y a quand même aussi l'idée de... Je ne peux que rebondir sur ce que disait Emmanuel Lozeran du choix du nom de Soseki qui témoigne de son humour, mais aussi de la manière dont, en se choisissant un nom, il parle de son travail. Il se trouve que je vous appelle depuis tout à l'heure Blex Bolex, c'est un nom d'artiste. Ça me donne quand même envie de vous entendre là-dessus.
Ah.
Non,
c'était... En fait, j'ai choisi un nom d'artiste parce que je ne savais pas si j'allais continuer à faire ces petits livres, donc je vendais au Regard Moderne.
Dans cette librairie qu'on a évoquée au début.
Et je me disais, bon, au bout d'un moment, je vais finir par faire autre chose. Je fais des études d'art. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais prendre un pseudonyme à partir du deuxième livre. Je vais me choisir un nom d'artiste. En fait, ce mot-là, c'est presque une sorte de déclaration de guerre, on va dire. C'est quelque chose qui affirme. Alors, ça n'a pas de sens en soi, ça n'a pas de sens particulier. Mais en tout cas, c'était l'état d'esprit. C'était de dire, bon, voilà, j'arrive.
Classe. Votre cinquième choix se tourne vers un traité de logique et de philosophie, tout simplement signé Ludwig Wittgenstein. On est en 1921. Traité logique et philosophique. Le monde est tout ce qui arrive. Le monde est l'ensemble des faits, non pas des choses. Le monde est déterminé par les faits, ces faits étant la totalité des faits. Car la totalité des faits détermine ce qui arrive et aussi tout ce qui n'arrive pas. Les faits, dans l'espace logique, constituent le monde. Le monde se dissout en faits. Une chose peut, ou bien être ce qui arrive, ou bien n'être pas ce qui arrive et tout le reste demeurer égal. Ce qui arrive, le fait, est l'existence d'état de choses. L'état de choses est une liaison d'objets, entités, choses. Il est essentiel à la chose de pouvoir être partie intégrante d'un état de choses. Et enfin, pour l'extrait que vous avez choisi, en logique, rien n'est accidentel. Si la chose peut arriver dans un état de choses, il faut que la possibilité de l'état de choses soit préalablement inscrite dans la chose. » Vous riez, Blex Bolex.
Oui, je ris. Parce que... parce qu'au bout de la troisième phrase, il m'a perdu.
Mais pourtant, il vous a perdu, mais il vous garde suffisamment parce que vous choisissez de mettre ce traité de logique et de philosophie dans votre bibliothèque comme un texte important.
Et il m'arrive de le relire et d'être perdu tout autant. Mais là aussi je pressens quelque chose qui est extrêmement important de ce qu'il dit... du langage, mais ça je pense qu'il le développe dans un autre livre. Là, il s'agit vraiment de définir très précisément ce qu'il essaye d'introduire dans le langage. Et ce qui me fascine aussi, c'est que le vocabulaire est extrêmement simple.
Ah bah ça, c'est clair.
Et de cette clarté, ne produit aucune clarté dans ma tête. Et je suis obligé vraiment de le reprendre fil à fil. Je m'en suis sorti avec d'autres livres, notamment des cours qu'il a donnés. Ce qui m'amène après à pouvoir relire et établir certaines. Mais je veux pas frimer. Ce qui est extrêmement drôle là-dedans, c'est qu'au bout de trois phrases, il m'a totalement perdu.
Mais par contre, vous lisez de la philosophie?
Très peu. Très très peu. J'ai pas le niveau, on va dire, pour faire ça. J'ai essayé de lire Spinoza parce qu'on m'a dit que c'est quand même extraordinaire en termes de construction. Aussi de pensée logique et c'est plus traître, je dirais, parce qu'il me perd moins vite, mais il me perd tout autant.
Et on va vers votre dernier choix, c'est un texte de François Villon, Le lait. On remonte le temps, nous voilà maintenant au 15e siècle. Item, au loup et à Cholet, je laisse à la fois un canard, pris sur les murs comme on sous-loie, envers les fossés sur le tard, et à chacun un grand tabard, de cordeliers jusqu'aux pieds, bûches charbon, des poids au lard, et mes ouzeaux sans avant-pied. Item, je laissais en pitié à trois petits-enfants tout nus, nommés en ce présent traitier, pauvres orphelins impourvus, tous déchaussés, tous dépourvus, et dénués comme le verre. J'ordonne qu'ils seront pourvus au moins pour passer cet hiver. Premièrement, Colin Laurence, Girard Gossoin et Jean Marceau, dépris de biens et de parents, qui n'ont vaillant lance d'un seau, chacun de mes biens un faisceau, ou quatre blancs, s'ils l'aiment mieux. Ils mangeront maint bon morceau, les enfants, quand je serai vieux. Et je lis maintenant les notes se rapportant à ce texte de François Villon. Au loup et à Cholet, deux personnages suspects, mi-policiers ou indicateurs de police, mi-ruffians, prêts à se saisir de toutes les aubaines, condamnés et emprisonnés l'un et l'autre, voire recherchés. Note suivante. Nommé en ce présent traitier, annonce des trois noms introduits dans le 8 ans suivant. Note suivante. Colin Laurence, Girard Gossoin et Jean Marceau, trois brasseurs d'affaires qui avaient en commun d'être âgés, riches, détestés en particulier pour avoir spéculé sur le sel, prêté sur gage et collaboré avec les Anglais, voire recherche. Tout le passage est donc ironique. Note suivante. Un faisceau, ce qu'on peut emporter en une seule charge. Note suivante. Quatre blancs. Le blanc est une monnaie valant 10 sous, c'est-à-dire la moitié d'une livre. Au vers 716 du Testament, le blanc est une monnaie de peu de valeur. Et note finale, ils mangeront main bon morceau. C'était une expression imagée qui signifiait avoir une bonne situation, mais ici, appliquée à des vieillards, elle est d'une particulière cruauté puisqu'elle équivaut à notre « ils mangeront les pissenlits par la racine ». Loin de pouvoir manger, ça veut dire qu'ils seront eux-mêmes mangés par les vers. Tout à l'heure, vous avez dit, Blex Bolex, au début du déballage de cette bibliothèque, combien il vous plaisait de trouver des choses étranges, quand même, terminé par ces huitains de François Villon du 15e siècle, et la lecture des notes qui s'y rapportent, pour qu'on s'y retrouve un petit peu. C'est étrange. Ah. Non, mais pas c'est étrange de choisir, mais c'est étrange ce texte.
Le texte est étrange, c'est le lait, c'est le Petit Testament, oui, c'est ça. Et on peut le lire de manière tout à fait naïve, effectivement. Si on ne connaît pas le contexte, on rate énormément de choses. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose de satirique. Il règle ses comptes, en fait, avec les gens qui ont fait du tort ou qui ont déplu d'une manière ou d'une autre. Et c'est l'humour et la méchanceté qui me ravissent là-dedans. Mais c'est vrai que ça en apporte des notes. Je lis ça tout à fait naïvement, niaisement. Et je me dis, mais de quoi il parle? Pourquoi c'est quoi ces petits enfants nus, etc. Mmh. Et il me faut tout ça pour réellement comprendre. Je ne peux pas y rentrer immédiatement dans la lecture.
Mais comment vous êtes arrivé à lire la poésie du 15e?
Alors, je ne lis pas la poésie du 15e, je lis Villon.
Ouais.
Par Alfred Jarry. Parce que dans Docteur Fostrol, il cite une série de livres pairs, ce qu'il appelle le livre pair.
C'est beau.
Et il y a un ouvrage de Marcel Schwab qui a écrit des textes sur Villon. Et ça m'a totalement fasciné. Et donc je me suis approché de Villon, exactement. Essayer de lire ses textes, ses poésies. Elles sont pas toutes sur ce registre, mais à certains moments, il s'amuse effectivement avec cruauté des gens qui l'ont maltraité aussi, il faut bien le dire. Mais bon, c'était aussi quelqu'un de particulier, on va dire.
Merci beaucoup, Blex Bolex, d'avoir ouvert pour nous votre bibliothèque.
Merci.
C'est pas obligé.
1, 2, 1, 2, 3. Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression in my imagination. Every mobile phone and every restaurant, everyone we know and everything you want.
Au son aujourd'hui, c'était Mineta Diawara à la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, en particulier à Cyril Marchand. Aujourd'hui, pour retrouver tous nos portraits de bibliothèque, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. C'est aussi sur cette page que vous retrouvez les références des textes cités par Blex Bolex.
You love in every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of place. Sees. Everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.